11h sur Radio Campus Tours, c'est la Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Oui, le studio est rempli d'invités aujourd'hui, vous l'avez compris, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, pour la troisième fois, nous allons exploser le plafond avec la compagnie Moebius Band. Alors, je salue Geoffrey. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Merci à toi d'être à nouveau dans ce studio. Alors aujourd'hui, deux invités avec nous. Est-ce que tu veux nous les présenter ?
Avec plaisir. Alors devant moi, il y a Élise Pereira-Nunes qui est adjointe au maire sur les missions déléguées aux missions égalité. Pardon, un peu difficile pour moi aujourd'hui. À ma droite, Marie Roussel Stadinicki, désolé encore, déléguée pareil mission égalité, mais cette fois-ci à la préfecture. Voilà, donc deux personnes qui font partie de notre vie municipale et politique.
Alors le sujet de l'émission, vous l'aurez compris, c'est femmes et...
politique, dans ouais. Les institutions publiques.
Eh bien, je te laisse dérouler tes questions parce que je crois que tu en as prévu plein pour nos deux invités.
On est plein. Alors tout d'abord, est-ce que vous allez bien ?
Très bien.
Très bien, merci.
on va passer peut-être un peu, je vous laisse vous présenter, quelles sont vos missions, en quoi ça consiste exactement pour vous, Élise, votre tâche à la mairie ?
Merci beaucoup. Donc moi, je suis effectivement déléguée à l'égalité des genres, à la lutte contre les discriminations et aux relations internationales. Et en fait, ce sont des missions que j'aime énormément dans la mesure où moi, je me suis engagée en politique pour travailler justement sur la défense des droits des femmes, des minorités LGBT, avec une approche assez intersectionnelle dans ces combats. Et la fibre relations internationales, vu que je suis enseignante à l'université à côté, que j'enseigne l'anglais et que j'ai vécu à l'étranger, pour moi, c'est assez naturel de rencontrer des délégations étrangères, de travailler avec des partenaires sur nos échanges de bonnes pratiques entre collectivités et bien sûr de porter les couleurs et les valeurs de notre municipalité, donc travailler sur la gastronomie, la nature en ville, l'égalité, voilà. Donc ça occupe mon temps et puis je suis aussi à côté... depuis 2 ans, vice-présidente à la métropole, à la démocratie et transition citoyenne.
D'accord, merci beaucoup. Donc un parcours très cohérent. Ensuite, Marie Roussel.
Oui, donc Marie Roussel, je suis déléguée aux droits des femmes et à l'égalité pour les services de l'État, donc en préfecture. Donc c'est services déconcentrés du ministère de l'égalité. Depuis 4 ans, avec 2 grands champs d'action, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui occupe 80% de mon temps. Donc, c'est-à-dire animer, coordonner, mettre en place cette politique publique prioritaire sur le territoire, avec plein de partenaires associatifs, institutionnels, hospitaliers, les collectivités. Voilà. Donc moi, je suis un peu à l'interface, à la coordination de tous ces partenaires pour faire avancer des actions, les financer et animer en fait, un réseau, en particulier autour de la prise en charge des victimes de violences.
Ok, merci. Si vous deviez expliquer votre métier à un enfant, un collégien, par quoi ça passerait ?
Vas-y, je te laisse commencer.
Eh bien, je dirais, chers collégiens, chères collégiennes, dans le droit, l'égalité entre les femmes et les hommes est marquée dans le droit, évidemment. Mais il y a encore un long chemin à parcourir pour que ce qui est marqué dans le droit, dans les lois, évidemment, l'égalité fait partie des lois et du droit, pour que ça s'applique vraiment, pour que ça devienne une réalité, on doit encore travailler, il y a encore du chemin à faire. Et donc, il y a... des délégués dans le département, des associations, des élus qui font en sorte que ce droit devienne réalité en subventionnant des actions, en s'assurant de l'effectivité des lois, en contrôlant l'égalité professionnelle, par exemple. Voilà, donc dans le droit, bien sûr, on est égaux, mais dans les faits, il y a encore du chemin à parcourir et donc c'est une de mes missions.
Et le rôle des élus, c'est aussi de... Donc de porter des projets politiques, porter aussi des projets législatifs. Donc il y a les lois qu'on doit déjà réussir à faire respecter, puis il y a toutes les lois qu'il faut encore écrire, puisque parfois c'est la loi qui permet vraiment de changer les choses. On le voit notamment au niveau des élus dans les collectivités comme une ville comme celle de Tours. La parité est maintenant obligatoire lorsqu'il y a une liste électorale. Donc c'est vraiment qu'il y ait un nombre égal de femmes et d'hommes élus. Et il y a même ce qu'on appelle un peu maintenant le shabada, c'est-à-dire ça doit alterner femme-homme, 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 pour pas que les femmes soient toutes à la fin de la liste et que conseillères municipales, sans délégation, mais elles peuvent aussi voilà, être adjointes, maire, première adjointe, conseiller auprès du maire. Donc il y a beaucoup de missions à remplir. Et il faut savoir qu'être élu, ce n'est pas uniquement, par exemple, avoir une délégation thématique comme la mienne, mais c'est aussi plein d'autres missions, puisqu'on célèbre aussi les mariages, on a aussi des astreintes de sécurité, on représente la ville dans plein d'institutions et plein de différents lieux. Donc c'est pas un travail, c'est pas un métier, c'est une mission, mais qui demande énormément de temps et d'engagement.
Et on vous remercie d'assumer ces missions. En quoi consistent exactement vos missions sur le terrain? Est-ce que vous avez des exemples d'actions, de projets mis en place par vous ou vos équipes?
Alors, moi, mes missions, concrètement, donc on va peut-être parler plus de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parce que c'est ce qui m'occupe le plus. J'ai un protocole, donc c'est un outil collaboratif entre 78 partenaires du territoire, donc des collectivités, le conseil départemental, la justice, les forces de sécurité intérieure, donc police, gendarmerie, des associations, la mairie de Tours, bien sûr, l'hôpital, l'université. Et ensemble, autour d'engagements qu'on a bien mis en place depuis plusieurs années, on va avancer chacun dans nos missions, mais aussi, on va avoir, par exemple, chaque structure va avoir un référent formé qui, en cas de victime de violence, va pouvoir être contacté selon la structure. On a son numéro direct pour créer un chaînage opérationnel autour des victimes. Ça, c'est vraiment le document concret de mon action. C'est-à-dire, il y a une politique vraiment prioritaire de lutte contre les violences faites aux femmes. Comment ça se traduit sur le territoire? Ça se traduit par un engagement des partenaires, avec des engagements par structure, mais aussi une politique prioritaire locale sur l'accompagnement des femmes, l'accompagnement des enfants co-victimes et des auteurs de violences conjugales. Et puis sur les questions d'accès aux droits, ça va être des actions, par exemple, de promotion de la mixité dans des secteurs qui sont peu mixtes, par exemple le secteur industriel, par exemple le numérique, qui s'est même déféminisé. Donc on va avoir des actions correctrices, l'État, qu'on va venir financer. Alors, ce n'est pas nous qui faisons, c'est rarement l'État qui fait. Hein. Il finance, il anime, il contrôle. C'est un peu les missions de l'État. Ce n'est pas très drôle dit comme ça, mais c'est important de faire la différence. Et donc, on va venir financer des actions voilà, correctrices sur des secteurs peu mixtes. Et puis là, par exemple, aussi, je pense à une autre action récente dont je suis très fière, qui est sur l'éducation menstruelle. Donc, lever le tabou des règles. Et on va venir, avec la ville de Tours, pour les CM2 et 6e, 5e, avec l'éducation nationale, venir parler à des collégiens, collégiennes, pour lever les tabous et informer sur les règles, les moyens de protection, etc. Voilà, ça, c'est un exemple concret.
Merci.
Alors, il faut savoir que, normalement, les délégations dans les collectivités, pour les élus, c'est souvent en lien avec les compétences directes des villes, comme adjoint à l'éducation et à la petite enfance, ou, par exemple, les ressources humaines, donc il y a différentes thématiques. Il faut savoir que l'égalité en soi n'est pas une délégation ordinaire, puisqu'il y a encore peu de villes qui sont dotées d'élus directement délégués à l'égalité des genres. Donc c'est un engagement fort de la ville que d'avoir ce type de délégation. Mais en revanche, la loi, depuis alors entre 2014 et 2017, rend obligatoire d'inclure l'égalité, d'intégrer l'égalité aux politiques publiques, donc pour en faire un sujet transversal. Parce qu'avant, les collectivités, les EPCI, donc les structures comme les métropoles, devaient avoir un plan d'action et un plan professionnel d'égalité femmes-hommes, puisque les villes, les collectivités sont des employeurs. À la Tour, c'est plus de 2000 personnes. Donc il y avait cette égalité professionnelle. Mais aujourd'hui, il faut inscrire, dans nos politiques publiques, il faut intégrer l'égalité. En 2020, quand notre municipalité est arrivée en fonction, il n'y avait pas de plan d'action égalité pour la ville de Tours. Et donc, on a créé le premier plan d'action donc 2020-2026 pour la ville de Tours. Et on a proposé à plusieurs associations féministes du territoire de travailler avec nous pour nous guider un peu, pas faire à notre place, mais vraiment nous parler des priorités. Puisque souvent, c'est aussi le terrain, hein, c'est aussi les citoyennes et les citoyens qui nous font remonter leurs besoins et les actions sur lesquelles ils pensent que c'est important qu'on agisse. Agir sur une action, on a compris. Et donc, concrètement, porter cette délégation au sein de la mairie et en faire une délégation transversale, ça va être quand on travaille à la végétalisation des cours d'école, comme c'est le plan récré en air dans pas mal d'écoles de la ville, ça va être repenser la cour d'école, donc la végétaliser pour que les enfants ne souffrent pas de la chaleur l'été, remettre de la verdure, mais aussi repenser la cour d'école qui est souvent très genrée, donc avec beaucoup les garçons qui prennent toute la place au milieu du terrain, souvent à jouer au foot, et les filles plus souvent reléguées sur les extérieurs, dans les coins un peu calmes. Donc là, repenser une cour, c'est aussi la repenser pour les différents usages, donc temps calme, temps fort, donc c'est important. Ça va être former aussi les agents de la ville à l'égalité, donc sensibilisation à des formations égalité qu'on a notamment portées avec Marie et, sur différents sujets. Et on a fait une formation, par exemple, dédiée à la police municipale aussi, pour que la police municipale déjà travaille bien en corrélation avec les autres acteurs locaux, les associations, parce que c'est important de créer du lien entre notre police municipale et les associations pour que chacun sache qui fait quoi, qui est voilà, un rapport de confiance, et que chacun ou chacune puisse orienter vers les bonnes personnes une victime qui arriverait, parce que ça peut être les assos, ça peut être une policière municipale qui accueille une victime, et même si ce n'est pas la compétence de la police municipale directement de prendre une plainte, entre dire bah, « c'est pas notre compétence, merci, au revoir », et dire bah, « écoutez, on va vous écouter, on va vous orienter vers les bonnes personnes, vous n'êtes pas seul, on prend en considération votre témoignage, parce qu'on sait que c'est très 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 déterminant dans le parcours de la victime. La première personne qui va la recevoir est la bonne écoute. Moi j'appelle ça la bonne écoute, la bonne parole, la bonne orientation. Donc voilà, j'ai plein d'exemples aussi à l'international, mais on en parlera peut-être plus tard.
Oui, tout à fait. On va revenir un peu après sur votre parcours, mais avant, peut-être que Mélissa a quelques questions.
Oui, j'aimerais savoir, mesdames, est-ce qu'on joue un rôle quand on est une élue ?
Alors moi, je ne suis pas élue.
Ou une fonction.
Qu'on incarne l'État.
Mais quand on incarne l'État.
Alors, un rôle, je pense qu'on joue des rôles un peu dans tout au long de notre vie. Hein. Quand on est une mère, on joue un rôle. Quand on est une conjointe ou un conjoint, on joue un certain rôle. Quand on est une élue aussi, même si, en fait, je ne dirais pas des rôles, mais plutôt différentes facettes de notre personnalité. Donc, moi, je sais que je suis Élise Pereira-Nunes quand je suis élue. Mais parfois, c'est aussi le regard des autres qui a pu changer. C'est-à-dire que du jour au lendemain où on a porté une écharpe, on peut voir les gens se comporter un peu différemment avec nous. Donc je pense que c'est aussi la façon dont les gens nous perçoivent qui nous met dans un certain rôle. Après, tout dépend aussi de comment on se positionne soi-même. Hein. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai intégré à ma vie ordinaire. Donc on s'habitue à ce costume. Je dirais plus un costume en fait qu'un rôle, vous voyez. Mais voilà, ça finit par faire partie de soi. Et le rôle qu'on incarne, en tout cas, c'est celui d'une personne en responsabilité. Donc avec, voilà, quand on va balader sur le marché, parfois, on peut venir nous parler de problèmes du quotidien ou quand on a des dîners avec des amis aussi, on peut passer la moitié d'un repas parfois à aborder des sujets qui, voilà, que les gens, qui sont animés, enfin, qui animent les gens, pardon, ça peut être voilà, des sujets du quotidien qui viennent d'un peu de partout. Mais c'est aussi voilà, porter les valeurs de notre municipalité. Donc, on ne se détache pas toujours complètement de ce rôle. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'égalité. On l'intègre quoi, à notre persona. Quoi.
Donc, moi, j'incarne le féministe d'État. Donc, c'est un rôle aussi. C'est-à-dire qu'on va être la féministe molle d'un côté pour les féministes associatives engagées qui finalement ne font pas ça tous les jours alors que nous, on fait ça tous les jours. Mais, et puis, pour le personnel préfectoral, les forces de l'ordre, on va être la féministe enragée. Donc, en fait, on est toujours la mauvaise ou la bonne féministe de quelqu'un. Donc, ça, j'ai appris à vivre avec. Donc, évidemment, j'étais déjà féministe avant, mais je n'étais pas dans des engagements publics. C'était dans mon coin. Donc, maintenant, je porte ça aussi. Et puis, pareil, c'est un boulot où il y a quand même pas mal de représentations. Donc, évidemment, il y a un rôle entre Marie-Roussel Stanicki, déléguée aux droits des femmes, de ce que je peux dire, où j'ai quand même toujours un devoir de réserve par rapport au fait que je représente l'État et parfois les politiques de gouvernement, ce qui n'est pas évident, mais ce que je dois tenir. Et puis Marie qui a ses idées sur le féminisme. Alors évidemment, je suis quand même plutôt en adéquation avec le féminisme d'État et avec les valeurs universalistes et abolitionnistes de l'État, donc ça tombe bien. Mais je parlais de la prostitution quand je dis abolitionniste. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas trop de difficultés à incarner ce rôle. Je suis plutôt fière de ce que je fais. Et je me sens au moins autant engagée qu'une militante qui me considérerait parfois comme une féministe d'État, c'est-à-dire que je fais quand même ça 8 heures par jour. Donc voilà, je fais avancer les dossiers, j'ai des crédits, j'ai un pouvoir d'agir en fait. J'ai un pouvoir d'agir une capacité aussi de faire évoluer les choses. On a quand même beaucoup d'autonomie sur nos postes. Donc voilà.
Si je peux me permettre de rebondir sur ce que Marie vient de dire. Moi, je dis souvent que je suis radicalement modérée. C'est-à-dire que je sais radicalement là où j'ai envie que les choses aillent. Je sais vers où je veux que la société arrive. Je sais ce que je veux voir aboutir. Mais le rôle d'élu permet et oblige à une certaine modération dans la mesure où quand on veut porter le sujet d'égalité, notamment, qui est assez touchy, même si on peut, il y a encore des gens qui pensent que l'égalité est obtenue partout. En fait, plus j'ai appris ça dans mon parcours militant, plus on va parfois arriver, et il faut du radicalisme pour moi, en matière de féminisme, il faut des gens qui portent fort et haut parfois.
Tout à fait, chacun dans son rôle est nécessaire.
Nous, notre rôle, ça va être aussi de rassembler. Donc de rassembler les associations, de rassembler les acteurs du terrain, et plus de travailler ensemble sur tout ce qui nous rassemble et tout ce que l'on porte collectivement que sur quelques thématiques qui peuvent crisper certains groupes les uns avec les autres. Voilà, nous, on est vraiment dans cette vision rassembleuse. Et voilà, j'accepte parfois cette posture plus modérée et qui prendra peut-être plus de temps à aboutir, mais moi, ce que je veux, c'est que ça se pérennise, sincèrement.
Donc, il faut séparer, disons, l'œuvre de l'artiste.
Je ne dirais pas ça non plus, mais en tout cas, c'est plus les moyens et les postures qu'on adopte, quoi.
Et quand on entre en fonction, est-ce qu'on bénéficie d'une quelconque formation? Est-ce qu'on vous apprend, alors il y a des choses à ne pas dire, ça, il faut plutôt le dire comme ça, il faut se tenir comme ça, il faut s'habiller comme ça, pour incarner l'État?
Oui, bien sûr, on a une formation de démarrage à ce poste, quand même, heureusement, parce qu'il faut rappeler que c'est des postes, on est seul. Moi, je suis seule entièrement sur l'émission, j'ai de la chance d'avoir une stagiaire en ce moment, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, faut vraiment aimer l'autonomie, voire l'isolement. Voilà, j'ai pas de service, j'ai pas d'assistante administrative, je suis toute seule. Donc, on nous apprend un peu, et puis après, on apprend sur le tas. Donc, la première année, elle est atroce, parce qu'il faut vous connaître les priorités. T'appelles tes collègues des autres départements, mais elles sont tellement dans le jus qu'elles t'aident plus ou moins selon ce qu'elles peuvent. Oui, bien sûr, tu changes un peu ta garde-robe pour les moments un peu plus officiels, mais... Encore que personne ne va venir t'embêter, t'es dégueu au droit des femmes sur tes vêtements quand même. Ce serait malvenu. Donc ça va, ça. Et puis après, moi je suis fonctionnaire au départ, même si j'ai bossé aussi dans l'associatif. Mais donc le devoir de réserve, il est déjà intégré. Sinon je fais autre chose, quoi. Il est intégré sur, évidemment, je ne vais pas critiquer un préfet, un président, un ministre. Voilà, c'est pas au moment de ma journée, c'est pas le... Mais j'avais l'habitude de ça déjà. Donc ça ne me pose pas de problème. Il y a la vie privée et la vie officielle. Donc moi, cette différence-là, je l'ai intégrée depuis mon premier poste à 26 ans, en fait.
Qui se met toute la différence avec parfois les élus, dans la mesure où, quand on n'a pas aspiré à une carrière politique depuis le plus jeune âge, et qu'on n'a pas baigné dans ces environnements-là, qu'on n'a pas baigné dans des modèles parfois politiques pour se construire, puisque moi, on est venu me chercher, en fait. C'est pas moi qui ai un jour décrété que j'allais me lancer en politique. On est venu me chercher pour me proposer de participer à l'aventure des municipales. On arrive le jour de l'installation du conseil municipal. On est vraiment jeté dans le grand bain sans brassard, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de formation au préalable. Alors on fait une campagne électorale, bien sûr, ça joue énormément, hein. Ça met dans le bain au niveau, je pense, des sujets, etc. Mais il n'y a pas de manuel. Moi, j'ai pas en tout cas eu entre les mains un manuel du bon élu ou de la bonne élue, quoi. Donc après, c'est une question parfois de bon sens, je pense, mais on n'a pas tous la même notion de ce qu'est le bon sens. Mais pour un exemple extrêmement concret, quand je vais célébrer des mariages le samedi, je pense aux mariés en me disant, voilà, s'ils ont des élus sur des photos, ils n'ont peut-être pas envie d'avoir une élue qui est en crocs avec un jogging. Bon, sachant que je n'ai ni crocs ni jogging à part chez moi pour le jogging, mais voilà, je pense aussi à eux, je pense à la façon dont les gens nous perçoivent, parce que quelque part, on peut passer à côté de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté de la façon dont les gens nous perçoivent. Ça peut être aussi quand on sort de chez soi pour aller faire ses courses. Bon, là-dessus, je suis un peu plus souple. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialement apprêtée quand je vais faire mes courses ou chercher mon pain. Mais on fait plus quand même attention à...
On est obligé de se laver les dents pour aller au marché parce qu'on peut croiser une procureure.
Qui va en plus parfois vous tenir la jambe 25 minutes ou dans une allée à un marché. Voilà, ça peut arriver. Donc il y a plein de situations du quotidien. Voilà. Bon, après, il faut quand même savoir que moi, je suis adjointe. Je pense que je n'ai pas du tout la même notoriété que le maire, donc je suis quand même plutôt tranquille, quoi. là-dessus. Je pense que dans mon quartier, il y a des gens à qui je n'étais pas élue, des commerçants de proximité, je n'ai pas forcément envie de leur dire. Et puis, bah, s'ils le découvrent, tant mieux ou tant pis. Ça dépend de leurs opinions aussi, parfois, je pense, hein, politique. Mais voilà. Donc, je pense que... Il faut s'acculturer au dossier. Moi, j'ai passé le premier été à vraiment travailler à tous les acronymes, parce qu'il y a énormément d'acronymes qui reviennent dans énormément de conversations sur beaucoup de sujets. Donc, le premier été a été assez musclé. Mais voilà, au bout d'un moment, on est dedans, quoi. On est dans les affaires, on est à fond et on y va.
C'est important, ce que vous dites toutes les deux, de dire, bah oui, on s'investit pas comme ça d'une fonction. Il y a tout un temps de travail, parce que j'imagine que, disons, un faux pas, entre guillemets, c'est vite une attaque, disons, sur le fait, ah bah oui, forcément, c'est une femme. Voilà, donc quelle légitimité elle peut avoir dans ce poste, elle fait ça, elle dit ça. Est-ce qu'on peut compter aussi sur le soutien d'autres femmes dans les mêmes fonctions, justement, pour se former, avancer dans ces fonctions ?
Alors, ce qui peut parfois être difficile, c'est que celles qui ont déjà une expérience sont pas toujours, disponibles, dans la mesure où voilà, on est tous tellement pris que on a très peu de temps vraiment où on se pose et on se parle de tout cela, quoi. Et puis celles parfois avec lesquelles on perd le plus de temps n'ont pas d'expérience non plus. Donc c'est vrai que nous, on a essayé quand même dans cette équipe de s'accorder ponctuellement des moments. En non-mixité, notamment sur un groupe WhatsApp, juste pour parfois se parler, si on n'a pas le temps de se voir pour prendre un café ou un thé ou une bière, pour en parler de façon plus détendue, on essaie de créer ces petits espaces. Moi, je sais que j'ai un autre groupe de discussion avec des jeunes femmes élues nationales sur la question de la maternité, et comment on gère maternité et fonctions électives. Et voilà, c'est parfois on a besoin de sororité, vraiment. Et surtout sur les sujets, voilà, comme on va l'évoquer, je pense, hein, mais sur le sexisme, sur la maternité, sur qu'est-ce qui fait que quand on est une femme élue, on n'a pas toujours les mêmes problématiques que quand on est un homme. Et j'espère qu'un jour, nous n'aurons même plus besoin d'avoir la conversation que nous sommes en train d'avoir, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Nous, on n'est que des femmes quasiment dans le réseau délégué aux droits des femmes. On est 130 déléguées et directrices régionales. À ce stand de gestion, quasiment que des femmes. Il y a quelques hommes en direction, bien sûr. Donc, il y a quand même de la bienveillance, de la sororité. On s'écrit, on a un groupe WhatsApp avec mes collègues de la région, des autres départements autour. On n'est pas du tout... Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé plutôt de la sororité parce qu'on traverse les mêmes problématiques. On a besoin d'aide. Alors, au début, on demande beaucoup d'aide, donc c'est un peu fatigant pour les autres. Mais après, il y a toujours des nouvelles, il y a pas mal de turnover. Donc, on renvoie l'aide aussi sur ce qu'on a mis en place. On transmet des documents. Je ne sais pas si ça serait pareil si c'était que des hommes, mais nous, on se donne tout, en fait. On se donne nos PowerPoints, on se donne tout ce qu'on a créé, même si on a mis des heures et des journées à le faire, on se le partage très facilement. C'est important parce que ça prend beaucoup de temps. Et quand on est monté à l'échelle, on ne la jette pas après, quoi.
C'est ça, c'est exactement la phrase. C'est aussi s'assurer de faire la courte échelle pour d'autres.
Eh ben, merci beaucoup. Peut-être une pause musicale maintenant. On va commencer par une recommandation d'Élise, Boss Bitch de Doja Cat. Bonne écoute.
Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. And boo, don't be mad, cause you had the chance. Yeah, say I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. Say I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it.
I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like gloss.
bitch and I boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and I boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and I boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and I boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and I boss, I'ma shine like glass.
Je vous vois, auditeur, auditrice, vous trémoussez derrière votre poste sur ce titre choisi par Élise Pereira Nunes. Alors, je te donne à nouveau la parole, Geoffrey, pour poursuivre cette émission où on est en train d'exploser le plafond.
Oui, tout à fait. Alors là, vous avez beaucoup parlé de votre métier, notamment du cheminement de pensée que c'est de s'engager dans une cause, de vouloir être élu, de vouloir représenter l'État, de vouloir vraiment être, comme vous l'avez dit, féministe. J'avais une question sur un moment en particulier, un souvenir que vous avez, où vous vous êtes dit, j'ai envie de faire ce métier, quelque chose, qui, une véritable envie, en fait, de vous représenter dans ce secteur.
Alors, du coup, on peut parler du parcours, quoi.
Oui.
OK. Donc, moi, je pense, enfin, on m'aurait dit il y a 7 ans que j'allais être élue à la ville de Tours. Je pense que j'aurais fait des. Enfin, je pense que j'aurais ri, parce que je ne me serais jamais représentée dans cette fonction. En tout cas, je n'avais jamais imaginé l'occuper un jour. Non, parce que moi, je viens d'un milieu quand même très universitaire. Hein. J'ai fait une fac d'anglais, enfin une hippocagne, une fac d'anglais par la suite. Je suis arrivée, parce que je suis normande, mais je suis arrivée en Touraine. Pour mon master recherche, parce que j'avais rencontré en Normandie, à Rouen, un enseignant qui travaillait sur les gender studies, et c'était une discipline que je n'avais jamais découverte avant, qui faisait très peu de bruit à l'époque. Et comme il était venu, il avait muté à Tours, donc j'ai décidé de le suivre après une année en Angleterre. Et donc j'ai fait de la recherche universitaire sur les gender studies, sous le prisme anglophone, bien sûr. Hein. Moi, j'ai fait des travaux de recherche pendant plusieurs années sur la contre-culture américaine, sur le cinéma underground américain, sur la figure du marginal, du rebut, de l'outcast, de toutes les pires représentations qu'on peut se faire de la société américaine dans les années 70, puisque j'ai travaillé sur John Waters, qui est un réalisateur qui a pris l'axe du mauvais goût et du mauvais genre pour dépeindre tous ceux qu'on considérait être les monstres de la société américaine, dont ce qu'on appellera plus tard les personnes LGBT, les personnes les monstrueuses, quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, mon virage universitaire s'est pas fait comme je l'aurais voulu après des années de recherche. Et j'ai eu besoin de faire une pause. Et j'ai eu besoin d'aller sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de porter tout ça, toutes ces recherches, tout ce cheminement psychologique, tout ce cheminement même dans ma vie. J'ai eu besoin de le porter sur le terrain, d'aller me confronter aux gens. Et donc j'ai cherché, je la fais courte, mais j'ai cherché vraiment l'association localement avec laquelle je me sentais la plus en adéquation pour travailler sur ces sujets. Et ça a été le planning familial 37. Donc je suis devenue bénévole au planning familial et tout de suite j'ai voulu aller voir tous les publics, donc des personnes en situation de handicap dans les IME, des gens sur les festivals, dans les collèges, départements, dans plein de types de lieux, des jeunes travailleurs. Et vraiment ça c'était très précieux pour moi parce que je me sentais aussi utile, parce que universitairement c'est très intéressant, mais j'avais besoin de porter différemment. Et j'ai adoré cette expérience avec le planning familial. Moi, c'est une association que je trouve vraiment très efficace, très bienveillante. Enfin, vraiment, je me suis sentie très bien là-bas et très en adéquation. Et lors d'une assemblée générale en 2018, je discutais avec des gens. Puis il y a cet homme en costume qui vient me parler. Donc on échange pendant un quart d'heure. Il donne sa carte. Et je vais voir quelqu'un que je connais du planning. Je lui dis, mais c'est qui ? Il me dit, mais Élise, c'est Jean-Patrick Gilles, c'est l'ancien député local, ancien premier adjoint. Enfin, c'est une vraie figure locale, quoi. Je suis désolée, mais moi, j'étais vraiment déconnectée de toute cette vie locale, parce que déjà, je ne suis pas d'ici. Et puis, moi, j'étais vraiment dans mon branché universitairement parlant, quoi. Et donc, j'ai eu quelqu'un qui a pris le temps et qui m'a dit, bon, on va boire un café, puis on en parle. Et c'est un homme qui m'a dit, je pense qu'il cherche des gens pour travailler sur les municipales. Je pense que le sujet de l'égalité, sexualité, etc. sont des sujets très importants aujourd'hui qu'il faut vraiment porter. Et je pense que tu as toutes les qualités pour le porter. Donc si tu le souhaites, si tu consens, et ben moi je pense que tu devrais y aller. Et en fait, quand j'ai pas pu soutenir mon doctorat, je m'étais toujours dit, bah, cette porte, elle se ferme, mais il y en a une autre qui va s'ouvrir, c'est obligé, quoi. Et en fait, c'était cette porte-là, je pense. C'était un nouveau chapitre avec tout un nouveau champ de compétences à digérer, tout un nouveau champ à étudier. Et moi, je pense que j'ai aussi cette fibre vraiment universitaire de recherche. Donc, je me suis dit, mais en fait, je crois que j'ai envie. Je crois que j'ai envie de porter ça parce que j'avais vu l'égalité, ces sujets, par le prisme universitaire. Je l'ai vu par le prisme associatif. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, je pourrais pas, avec humilité, c'est un peu un chaînon manquant, quoi. C'est-à-dire cette personne qui va contribuer à peut-être porter ces sujets plus haut, trouver des moyens, voilà, vraiment militer, mais à une autre échelle, quoi.
Ok, bah merci, c'est très joli comme histoire, j'ai beaucoup aimé. Marie.
Alors moi, ce que je veux dire, et vous allez voir avec mon parcours, et je vais le dire aux jeunes qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas de linéarité. C'est-à-dire qu'on peut faire des études sur quelque chose, et puis faire tout autre chose, et puis parfois on est là aussi, on arrive par hasard, et c'est pas pour ça qu'après on n'adore pas aussi. Voilà, je voulais dire ça en préambule. Donc moi, au départ, j'ai fait des études d'histoire de l'art à Tours, au Tanneur. Donc j'ai fait un master recherche plutôt sur l'architecture populaire, sociale, ouvrière. C'était ça vraiment mon sujet, l'habitat social ou l'habitat populaire, touristique. J'ai fait mon DEA, on disait à l'époque, sur la Grande Motte. Donc une des premières stations balnéaires populaires du sud de la France, réalisée par Jean Balladur, l'architecte. Bref, après, j'ai fait un master d'urbanisme à la Sorbonne. Donc, parce que je me disais, non, mais j'en ai marre d'étudier de l'architecture, je veux la faire aussi. Donc, j'ai fait un master d'urba. Et puis après, mon premier boulot, c'était dans une collectivité dans le 93. Et là, j'ai fait pas du tout de l'urbanisme. J'ai fait des services techniques. Donc, gestion des espaces verts, des déchets, de la voirie. J'avais 27 ans, j'avais 45 personnes sous ma responsabilité, dont 43 mecs. Donc je me suis très vite confrontée à c'est quoi être une jeune femme qui chapeaute des agents masculins. C'était pas simple. Heureusement, j'avais des chefs de service, des mecs super bien, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont tout appris, parce que moi j'arrivais de mes études universitaires avec la théorie, mais voilà, j'étais dans le grand bain. Et puis donc j'ai passé les concours, je suis devenue ingénieure territoriale, dans la fonction publique territoriale. Et je suis restée plusieurs années. Ensuite, pour des raisons personnelles, je suis partie en Égypte. Et en Égypte, pendant 4 ans, j'ai enseigné essentiellement à la filière Sciences Po, filière francophone de l'Université du Caire, sur l'histoire contemporaine. Voilà. Donc, la révolution industrielle au choc pétrolier, parce que les étudiants égyptiens, ils ne font que l'histoire nationale au lycée. Et donc après, comme ils allaient dans les filières Sciences Po et économie, il fallait quand même qu'ils aient un peu de matière en histoire contemporaine. Donc j'ai fait ça. Et après, on est revenu à Tours. Et à Tours, je me suis dit, je vais continuer dans le service public parce que c'est vraiment ce que j'avais fait et ce que j'aimais. Pour moi, ça avait du sens. Je ne pourrais pas imaginer travailler pour autre chose que le public, les habitants. Et je n'ai pas à trouver. Mais j'ai trouvé une association qui s'appelle Tigan Habitat, qui travaille avec les gens du voyage. Et peu à peu, je suis devenue directrice de cette association, en fait, qui gère les aires d'accueil, donc les lieux de vie des voyageurs non sédentaires, qui fait des projets d'habitat pour les voyageurs sédentaires, qui fait de la médiation et de l'accompagnement social. Et ça, c'était merveilleux parce que finalement, moi, j'ai travaillé longtemps, alors évidemment avec des gens, mais pas sur l'humain, pas sur le social, plutôt sur le technique, même si c'est la vie des gens au quotidien, c'est super important et je le pense encore aujourd'hui. Mais là, j'ai glissé tout doucement vers le social et ce n'était pas écrit, je n'ai pas du tout d'effet d'études sociales, quoi. Et donc là, il y a quand même une vingtaine de salariés, des gros enjeux, la vie de l'associatif, donc ça c'est dur. Comment on boucle les fins de mois, les subventions, les appels à projets, avec des métiers extrêmement difficiles, gérer une aire d'accueil c'est extrêmement difficile. Et surtout je découvre une population ultra stigmatisée, qui est française, déjà peu de gens le savent, et qui est vraiment reléguée et physiquement aux abords des villes et reléguée socialement, quoi. Voilà, il y a énormément d'altérité entre la population majoritaire et les gens du voyage. Donc déjà ça m'alerte, ça me passionne pendant 4-5 ans, mais c'est très dur, parce qu'en Indre-et-Loire, c'est une question politique très difficile, et beaucoup très difficile politiquement. Donc, je me suis beaucoup battue avec des élus, en Indre-et-Loire et ailleurs, mais il y a des départements plus faciles. Voilà, et donc je suis sortie un peu fatiguée de cette expérience associative et militante, en fait, parce que c'était une association militante, mais quand même qui dépendait des subventions de l'État ou des appels à projets, des appels marchés publics des villes, donc quand même très cadré, donc très difficile d'être militant sans se faire complètement écraser. Et puis j'avais envie de sortir aussi de cette niche et d'aller sur des combats, comment dire, plus grands, c'est pas plus grand, mais qui concerne une plus grande partie de la population, on va dire. Et puis j'avais ces engagements féministes, en tout cas ces intérêts féministes depuis des années. Je lisais beaucoup. Je pense que j'ai toujours eu en moi. J'ai été élevée un peu là-dedans. J'ai été confrontée par les métiers que je te raconte, par tout ça. Par toujours quand même beaucoup de colère en moi de toujours devoir en faire plus, se battre contre la drague lourde, sur le traitement parfois d'élus qui te parlent en mettant la main sur la cuisse, enfin des choses comme ça qui m'ont toujours révoltée. Et puis je n'avais pas forcément imaginé que je pouvais bosser en fait sur ce sujet. Et là d'un coup il y a ce poste qui sort. Alors il faut quand même savoir que c'est un recrutement très difficile avec plusieurs niveaux et c'est le préfet ou la préfète qui te recrute. Alors moi c'était une préfète, Marie Lajus à l'époque, qui m'a recrutée en plein Covid. Donc, waouh, j'étais très fière. C'était une sacrée mission. Et en même temps, je débutais et je me disais, c'est génial, je vais pouvoir travailler sur un sujet qui me passionne. C'est rare quand même qu'on puisse mélanger les deux. Alors, bien sûr, les universitaires, ils ont cette chance. Mais bon, moi, voilà, c'était toujours deux choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ma vie perso, vie pro qui s'est mélangée de manière très heureuse, quoi. Où voilà, je peux tout ce que je lis le week-end nourrit ce que je vais faire la semaine et puis même ça, on a chaussé les lunettes du genre aussi, donc on voit les choses différemment. Alors parfois on peut être un peu pénible aussi, je pense, mais pour son entourage. Mais tu dis non, Élise, mais non, si, non, je non, te
non,
jure.
Non. Non, mais, alors on est perçu comme pénible. Moi, je pense que c'est une perception qui appartient à ceux qui la ressentent.
Écoute, on va dire ça. Mais donc voilà, mon parcours, c'est ça. Ce n'était pas du tout écrit qu'un jour, je travaille sur ce sujet. Je n'ai pas milité, pardon, de manière associative. Voilà. Donc ça s'est fait, je pense, à la fois pour mon intérêt sur les inégalités et aussi sur mon intérêt pour le service public, en fait. Je trouve ça génial de pouvoir défendre une cause dans son boulot tous les jours, de faire avancer les choses. Alors, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce poste qui est vraiment incroyable.
Merci. J'ai une petite question sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je reviens un petit peu loin, sur les sororités. Vous avez parlé beaucoup de ça, notamment de l'accompagnant que ça a été dans votre métier. Donc, une fois en fait arrivé là, déjà vous exposez beaucoup votre fierté d'être dans vos postes actuels et aussi que c'est vraiment un découlement déjà militant mais aussi idéologique de votre part d'être symboliquement à ces postes et de pouvoir militer à ces postes-là aussi. Mais sur les sororités, est-ce que vous pensez que est-ce que c'est normal en fait, est-ce que un homme à votre poste n'aurait sans doute pas eu besoin en fait de tout cet accompagnement genré?
Alors déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes élus à l'égalité.
Pas beaucoup d'hommes délégués.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir, parce que je pense qu'il y a des hommes qui sont des alliés et qui seraient tout à fait à leur place. Mais je pense que c'est justement ces hommes-là qui ne veulent pas prendre la place des femmes sur ces sujets. Donc moi, je n'aurais aucun problème à ce que qu'un homme ait ce type de délégation, au contraire, parce qu'on parle souvent de délégations très genrées, comme les solidarités qui sont souvent portées par les femmes, alors que les finances, c'est quand même plus souvent porté par des hommes, n'est-ce pas? Moi, je suis pour décloisonner. Néanmoins, aujourd'hui, je pense que c'est aussi important que ce soit porté par des femmes parce que ça, c'est aussi une façon de pouvoir s'identifier à des figures qui peuvent porter ces sujets plus haut. Et en même temps, moi, ce que j'espère qui ressortira de cette émission, c'est que les personnes qui nous écoutent puissent se dire « ça m'a porté, quoi. C'est à ma portée ». Si je le veux, ça m'a porté. Moi, j'ai une femme élue dans mon entourage qui avait plus d'expérience que moi, qui m'a dit rapidement, qui m'a beaucoup poussée d'ailleurs dans cette ascension, qui m'a dit mais prends ta place, quoi. Prends ta place parce que tu sais même pas que tu la mérites. C'est pas qu'une question de mérite, c'est une question que t'es légitime, quoi. T'es légitime parce qu'on est toutes un peu frappées du syndrome de l'imposteur en permanence, même quand on travaille dessus. Enfin, moi, je sais que parfois, en tant que féministe, ces problèmes aussi d'alliés professionnels et personnels, c'est que parfois, on est en conflit intérieur. Moi, je sais que parfois, ça ne va pas assez vite pour moi, donc il faut aussi apprendre à accepter que les choses aillent à la vitesse à laquelle elles vont. C'est aussi parfois être victime de ses propres stéréotypes de genre. Donc, c'est pas toujours évident d'être aligné, mais bon, je pense que je le suis 95% du temps, quoi. Il y a 5% du temps où je me remets en question, où j'interroge ma place, où je me demande si si ça a du sens, si c'est vraiment ce que je veux, si je suis là. Bon, mais après, plus on est dans le faire, moins on se remet en question, hein, clairement. Hein. Ça, c'est sûr et certain.
Ok, bah merci. Et c'est super important, je pense, pour moi. Enfin, de mon regard, je pense que c'est super important de continuer à se remettre en question tout le temps. Marie ?
Pareil, tous les jours, des doutes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre professionnelle qui ferait mieux que moi ? Finalement, qu'est-ce que j'ai fait en 4 ans ? Quel est mon bilan ? En plus, comme c'est des postes exposés, en permanence, je me dis, est-ce que les gens pensent que je fais assez pour la cause ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne me laisse pas tranquille, même à bientôt 44 ans. Bon, mais le doute, c'est aussi un moteur. C'est faire plus. C'est aussi se dire, enfin, l'équilibre vie pro, vie perso. J'ai 2 enfants. OK, c'est une mission passion, mais quand même, il y a aussi la vie perso qui vient redonner des forces pour la vie pro et l'inverse aussi. Donc, c'est trouver le bon équilibre. Avec un boulot où je pourrais... J'ai des collègues hein, qui ont la cinquantaine, qui font 12 heures par jour. Parce qu'en fait, on peut tirer des fils en permanence. Moi, je dis beaucoup non. Je suis obligée de prioriser en permanence. Je suis toute seule sur un nombre de sujets énormes. Donc, je suis obligée toujours de dire non, de renoncer à ça, de renoncer à tel projet. Parfois aussi, j'ai autour de moi ou dans la hiérarchie des projets qui intéressent moi. Donc, il ne faut pas que je le prenne personnellement. Quand je présente des choses, c'est vrai, j'ai essayé des choses au début de ma fonction, ça ne s'intéresse pas finalement trop les autres associations, donc j'ai renoncé, voilà, d'être beaucoup à l'écoute. Et puis, nous, il n'y a pas vraiment d'hommes délégués. Je pense que quand ils candidatent, il faut qu'ils aient vraiment un super CV, une super volonté, parce que c'est presque de la discrimination positive si on les prend, je crois. Mais il y en a quelques-uns. En Haute-Seine, on a un collègue homme, c'est le seul que j'identifie au même niveau que moi. Par contre, dans mes postes précédents, dans les services techniques, il n'y avait quasiment que des hommes. C'était très peu féminisé, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs femmes. Et moi, j'en ai eu à souffrir vraiment de ça. J'arrivais sur des réunions de chantier avec des agents de maîtrise, donc des postes inférieurs, on va dire. Enfin, peu importe, mais inférieurs dans les hiérarchies. Et on pensait que j'étais la secrétaire ou la stagiaire, tout le temps. Il est obligé de dire, c'est ma collègue, l'ingénieur. Voilà. Donc ça, j'en ai beaucoup souffert. Après aussi, avec les élus, plus tard, dans mon poste à l'association aussi... j'ai été parfois maltraitée et je pense que peut-être ça ne serait pas arrivé si j'étais un homme de 50 ans. Enfin, j'en suis quasi sûre, en fait. Parce que j'avais une trentaine d'années et que quand on élève la voix, moi, en fait, il y a un truc qui se coupe, quoi. Et ils savent faire ça. Donc, je pense que plusieurs fois, ça a été... Il y a des situations que j'identifie, je ne vais pas toutes les décrire là, où je pense que si j'avais été un homme de 50 ans, de 45 ans à l'époque, ça aurait été différent. Maintenant, à la place où je suis, il n'y a pas ce problème-là. Parce que c'est rarement incarné par un homme. Et puis, il y a une dimension quand même utile, c'est que tu travailles pour le préfet. Ce qui pose tout de suite un truc un peu hiérarchique, où tu n'es pas malmené, en fait. Tu es plutôt, on t'attend, t'espère. Est-ce que tu peux aller sur ce sujet ? Est-ce qu'on peut avoir un temps de rencontre ? Je ne suis pas élue, mais il y a ce truc-là quand même.
Et bien, comme quand tu es élue à l'égalité femme-homme, on cherche peut-être moins à se faire subir du sexisme, parce que je pense qu'on se doute que c'est peut-être pas le meilleur public.
Voilà.
Marie, est-ce que tu as des petites questions ?
J'allume mon micro et oui, je vais en poser une. Donc je serais curieuse de savoir comment on fait pour s'approprier sa fonction, justement pour ne pas jouer les utilités et pour ne pas que les vraies décisions se prennent ailleurs et sans vous, notamment par des hommes.
En fait, on est quasiment que des femmes à travailler sur mes sujets. Donc, après, j'ai des hommes au-dessus, très très au-dessus. J'ai un homme, bien sûr, en ce moment. Mais ça ne s'est jamais passé, en fait. Je pense que peut-être que les sujets ne les passionnent pas assez pour qu'ils prennent des décisions à ma place. Je dis ça, j'espère que ce n'est pas déjà trop... Voilà, moi, je suis beaucoup en autonomie, on me fait confiance. Faut savoir que les préfets, ils changent tous les 2-3 ans. Donc, tous les services de l'État, nous, on continue, on est là pendant des années. Donc, en fait, ils s'en réfèrent beaucoup à nous. Ça ne leur viendrait pas à l'idée de prendre une décision sur mes sujets sans m'en parler, tout simplement parce que c'est nous qui avons la maîtrise des sujets. Donc, ça serait extrêmement casse-gueule pour eux de le faire. Après, il pourrait y avoir des sorties, c'est pas arrivé, hein, extrêmement négatives sur mes sujets ou sexistes. Hein, j'en ai été protégée jusqu'à maintenant, mais ça pourrait arriver. Mais je ne suis pas responsable de cette parole-là. Je ne me suis pas fait voler mes idées, mais je vois ça régulièrement autour de moi, même dans des collègues des services de l'État, des femmes qui se font voler leurs idées dans des réunions après de chefs de service. Ça me choque toujours beaucoup. Et voilà, faut apprendre à réagir. Moi, je ne l'ai pas vécu sur mon poste là actuellement.
Alors, moi, j'ai quand même la chance d'avoir aussi un maire qui m'a donné cette délégation, qui me fait confiance et qui est quelqu'un de convaincu par la nécessité de travailler sur les sujets. Donc ça, ce n'est pas compliqué à cette échelle-là. Mais l'échelle la plus compliquée, c'est que comme ce n'est pas une compétence à proprement parler, on n'a pas les agents, on n'a pas les ressources, on n'a pas forcément les budgets non plus. Et en contexte un peu d'austérité budgétaire, ce n'est pas forcément les budgets qu'on va gonfler. Donc l'intérêt d'intégrer l'égalité dans toutes les politiques publiques, c'est qu'on est censé pouvoir intervenir un peu sur tous les champs.
De manière transversale.
Mais ça veut dire aussi que toutes les personnes qui travaillent déjà sur tous les autres sujets doivent l'intégrer à leur propre réflexion. Et il faut quand même toujours y aller, se faire entendre.
On répète énormément les choses.
Et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps pour faire intégrer l'idée qu'il faut intégrer l'égalité et que, encore une fois, tout le monde en bénéficie, parce que j'ai quand même souvent le sentiment que ça est considéré comme une charge de travail en plus, alors que si on l'intègre, en fait, c'est comme avant le handicap. C'est-à-dire maintenant, on ne construirait plus un bâtiment sans penser à l'accessibilité, quoi, à l'accès PMR, etc. Enfin, ça a été intégré. Donc, moi, j'espère que le réflexe par rapport à l'égalité sera intégré rapidement pour qu'on aille plus vite. En urbanisme, notamment, moi, j'ai travaillé sur pas mal de projets ou de forums sur l'urbanisme, dans l'inclusion de tous les besoins, dont ceux des femmes. Mais voilà, c'est un peu martelé en permanence et c'est ça qui peut être un peu épuisant.
Qu'on n'oublie pas notre sujet dans les politiques transversales. Et que mes collègues inspecteurs, inspectrices du travail y pensent, y pensent beaucoup. Que les collègues de l'hébergement y pensent. Voilà, tout. Que ce soit une politique transversale, on n'y est pas du tout. Et moi, j'ai le plus petit budget de l'État, je le rappelle quand même. Donc même s'il a doublé en 4-5 ans, ça reste quand même le plus petit. Mais je n'ai pas subi de baisse. Ce qui est déjà, à l'heure actuelle, 2025,
ça, c'est déjà énorme.
Énorme, voilà.
Et justement, ne pas s'essouffler parce qu'on peut vite passer pour celle qui est relou, quoi, en fait. Qui va venir, qui va porter son sujet, qui va essayer d'en mettre à toutes les sauces. Alors que, en fait, mais je pense que c'est aussi parce qu'on est un peu aux prémices de ces intégrations-là. Donc, on essuie certains plâtres, mais au moins, on a quand même cet espace pour le faire. Donc, voilà, moi, je suis optimiste.
Oui.
Il faut l'être, réaliste mais et optimiste, on va dire.
Je pense qu'en 5-10 ans, ça a changé. C'est-à-dire que peut-être qu'au fond, tout le monde n'est pas d'accord avec nous, mais les personnes n'osent plus le dire et laissent comme avancer les projets. Même des hommes ou des femmes pas féministes ou qui s'en fichent un peu de ces questions-là, au vu de l'ère du temps, ils ne vont pas nous opposer. Enfin, moi, je ne rencontre pas d'opposition idéologique frontale, quoi.
J'appelle ça, moi, je pense qu'il y a plus des formes de résistance passive. De résistance passive où finalement on va peut-être pas trop le faire non plus.
Pas sur les violences, mais sur l'égalité.
Non, mais voilà, sur l'égalité, voilà, c'est qu'en gros, bon, on va pas. Si on nous demande pas de le faire, on va pas forcément le faire. Si on n'est pas trop contraint, on va pas forcément le faire. Et
c'est pour ça que c'est important, comme tu disais, les lois et les contraintes.
Et les formations.
Ah oui, crucial.
Même si j'ai quand même encore un peu parfois le sentiment auprès de techniciens ou de collègues élus, quels que soient les bords politiques, hein, que. J'ai quand même encore parfois le sentiment que l'égalité, ça reste quand même une affaire de femmes, donc c'est à vous de vous bouger, quoi.
Exactement.
Alors que non, on a besoin de tout le monde. Parce que ça bénéficie à tout le monde, en fait.
Exactement.
Peut-être une petite pause musicale. Avant d'aller plus précisément sur le lien du plafond de verre, qui est un petit peu l'élément centre de cette émission, et revenir avec vous sur cela, sur ce principe. On va écouter Rosalía Hiroke, tu me corriges.
Hiroke.
Une recommandation de Marie. Bonne écoute.
Ella lleva mi niño preso en más de 400 dentro.
Radio Campus Tour.
Bonjour Mélissa.
Radio Campus Tour.
Que de bonnes questions, Mélissa.
99.5 FM.
Tu es journaliste, non, c'est ça?
Oui, c'est un métier.
On lutte contre le sexisme sous toutes ses formes. Et ça, là, pour le coup, c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille là vraiment beaucoup ce mois-ci, en l'occurrence. Et voilà.
Ok.
RadioCampusTour.com.
Nous sommes de retour.
Bonjour, on est toujours avec Marie-Roussel Stadnicki et Élise Pereira-Nounès et on va aller progressivement vers quelque chose d'un peu moins marrant que tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, même si vous avez déjà un petit peu abordé les causes et effets. Le plafond de verre, alors le plafond de verre je l'ai déjà défini plusieurs fois, je vais faire une définition un peu plus rapide cette fois-ci. Le plafond de verre en fait c'est un concept sociologique qui désigne le fait que dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes, essentiellement en raison du sexisme, parce que ça touche principalement les femmes, mais aussi plusieurs individus perçus comme minoritaires. C'est dû aux individus qui véhiculent en fait ce plafond de verre et qui le créent, donc que ce soit par carte de discrimination, de harcèlement, tu en as déjà un petit peu parlé Marie tout à l'heure, mais aussi par des stéréotypes genrés qui sont incombés à chaque individu de façon consciente ou inconsciente. C'est par exemple le stéréotype pour lequel les femmes seraient trop gentilles pour assumer un poste de management, ou que leur rôle de mère ne permettrait pas d'assumer autant de temps à leur profession, à leur travail. Des stéréotypes qui sont d'ailleurs que centrés sur les femmes et pas sur les hommes, donc forcément, qui sont très handicapantes pour elles et dans leur carrière professionnelle et qui créent ce plafond de verre qui leur empêche d'accéder aux postes supérieurs dans une hiérarchie. Il faut savoir que dans le secteur politique, en 2000, donc il y a un travail qui avait commencé en 82, si je ne me trompe pas, vous me corrigez si j'ai tort, il y a une loi sur la parité qui est passée en politique qui oblige les créateurs de listes électorales à faire preuve d'une parité entre les femmes et les hommes sous peine d'amende dans les listes. Il faut savoir que après cette loi 2000, post-loi 2000, il y a eu un gros changement quand même dans la représentation de la femme. Il y a eu une explosion et c'est super. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas le cas dans toutes les professions du secteur politique, notamment les postes à haute responsabilité. Est-ce que vous êtes un peu au courant de ce phénomène?
Alors, moi, on va essayer d'être bref, mais il faut quand même savoir que si, avec la loi de la parité, j'ai quand même entendu, moi, des discours qui sont un peu relayés encore sur le fait que c'est quand même pas facile de trouver des femmes. Les femmes ont moins envie de s'engager. Et puis, bon, bah, des fois, faut voir les femmes qu'on récupère pour boucler les listes, quoi. Mais, bon, alors à cet argument, moi, je tiens quand même à préciser que j'ai eu beaucoup de réflexions avec d'autres personnes ces dernières semaines sur ce sujet. Et ce qu'on a aussi découvert, c'est que de devoir avoir cette alternance femme-homme, ça permet, entre guillemets, d'avoir aussi des hommes de, entre guillemets, meilleure qualité. C'est-à-dire qu'il y a plus de sélection pour les hommes pour pouvoir intégrer des listes. Donc, bah, il y a quand même un peu plus de réflexion autour de qui va endosser le costume, quoi. Donc, je pense que finalement, on en sort toutes et tous plus grands. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose lié au stéréotype, parce qu'on pense encore qu'une femme, aujourd'hui, elle est moins capable d'occuper une élection, d'occuper une fonction élevée, une fonction directive. C'est aussi pour ça qu'on a beau avoir 20% de maires, M-A-I-R-E, de maires en France, on a quand même plus tendance à faire confiance à un homme pour occuper ce type de mission. Et le problème qu'on retrouve aussi, c'est que vous avez des structures comme les EPCI, donc les métropoles par exemple, où les exécutifs sont composés des maires locaux. Donc, finalement, comme il y a moins de femmes maires, il y a moins de femmes dans les exécutifs métropolitains et moins de femmes présidentes de PCI. Donc, finalement, même malgré les lois qui aident et qui font beaucoup, il faut quand même que les femmes, souvent, fassent plus, en fait. Faut souvent que les femmes fassent plus pour essayer d'accéder à peu près à la même chose, voire même un peu moins, quoi.
Un chiffre, juste pour illustrer ce que tu dis, il y a 11 EPCI, donc 11 intercommunalités en Indre-et-Loire. Il n'y en a que 2 qui sont présidées par des femmes.
Et Château-Renaud et je ne sais plus laquelle.
Bléré.
Et Bléré.
Autour de Chenonceau.
Donc ça reste quand même une réalité. Et je pense que bon, pour décorréler un peu, ce qui se passe aux États-Unis est quand même très représentatif, parce que je pense qu'aux États-Unis, on n'est pas prêt d'avoir une femme présidente. Mm. C'est un pays qui n'est pas prêt à avoir une femme présidente.
La France non plus, je crois.
La France non plus, mais en tout cas, c'est très flagrant. C'est-à-dire que, alors que c'est faux dans certains pays d'Afrique, c'est faux dans certains pays d'Amérique latine, dans certains pays scandinaves, mais dans la culture occidentale qu'on pourrait penser souvent plus élevée sur les sujets d'égalité, plus en avance, eh ben, je peux vous dire que c'est loin d'être vrai.
Totalement.
Ce que je peux rajouter là-dessus sur la parité, c'est que dans les postes de la haute fonction publique, ils ont fait ça aussi, je crois que c'est la loi Sauvadet, mais je ne sais plus trop, 2014. Donc c'est-à-dire à compétence égale, ils vont prendre une femme. Ah mais là, je l'entends encore aujourd'hui.
Hein. C'est très mal vécu.
Ah mais très mal vécu, pourquoi? Parce que y a des hommes qui ont vu leur carrière du coup pas monter à cause d'une femme qui est prise à leur place. Ça a été le cas à l'université, c'est le cas dans la diplomatie aussi. À compétence égale, pour justement corriger cette inégalité, en fait, on permet ça. Donc, université, diplomatie, au poste de la fonction publique, par exemple, directeur de la police nationale, des choses comme ça, directrice. Donc, c'est encore très mal vécu. J'entendais un haut fonctionnaire aussi déjà me le rappeler, que ça crée, en fait, une nouvelle discrimination pour lui. Donc, c'est mal vécu. On m'a dit, on a pu mettre des chèvres à des postes, etc. J'ai dit, écoutez... Ça fait 2000 ans qu'il y a des chèvres hommes aussi à des postes. Donc, non, c'est encore pas du tout accepté.
Il y a des féministes qui disent même, mais en fait, on sera vraiment égaux quand les femmes pourront être aussi médiocres que les hommes.
Voilà, ça. Donc, il y a ça. Après, le plafond de verre, il y a aussi que c'est dès le début, en fait, dans les choix de ce qu'on fait. Donc là, on dit qu'il y a tout confondu, 23%, je crois, d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Après, si on vient sur le même temps, parce qu'il y a beaucoup de temps partiel qui est pris par les femmes, parce que la charge domestique pèse encore beaucoup sur les femmes, voilà. Après, c'est réduit à environ 15% pour le temps de travail équivalent. Donc là, on dit, comment ça se fait? C'est parce que c'est le choix des métiers, le choix des formations, et ça, c'est dès le lycée, dès l'université. On ne fait pas les mêmes choix. On va vers des formations et des métiers moins rémunérateurs, moins rémunératrices, et les hommes sur le numérique, l'ingénieur, les sciences, etc. Et puis après, on a encore essayé d'épuiser encore plus les chiffres en regardant à poste égal, à compétence égale, et là on a encore 3%. Donc il y a des négociations sans doute qui se font, ils vont plus oser négocier, peut-être des choses, voilà.
Quand ils viennent du privé aussi, en fait les hommes qui viennent du privé qui intègrent la fonction publique parfois,
ils vont négocier. Bien sûr. Des choses qu'on pense pas, parce que normalement on se dit dans le public qu'il y a une grille, point. Non, en fait, on peut négocier certaines choses, toujours. Et je l'ai vu quand j'étais au service technique, un mec qui venait du privé, qui avait réussi à négocier une voiture, par exemple, de fonction. C'est un avantage.
Ou certains cadres qui ont rempli des missions au-delà du cadre de leur poste et qui demandent justement un avancement de salaire, une prime.
Voilà, c'est ça.
Autre.
Donc, on nous voit moins à des postes. Les hommes ont plus le temps aussi, parce qu'ils ont moins en charge domestique, de faire des formations, de bosser plus tard, donc d'obtenir une promotion, etc. Il y a ça. Et puis aussi, nous, on a sans doute pendant des années moins osé, mais parce qu'on ne se sentait pas légitime, mais parce qu'on avait toujours des hommes chefs, en fait. Donc, c'est compliqué. Et puis, pas de rôle modèle, en fait. On n'arrive pas à se projeter. On se dit, mais là, c'est que des hommes, en fait. C'est que des hommes à la tête, voire une femme... On s'est dit qu'est-ce qui s'est. Enfin, on n'a tellement pas vu ça qu'on n'a pas pu se projeter aussi.
Est-ce donc en fait, pire c'est quand ça qui est bien. Personne racisée, bien etc., sûr. Etc.
Donc ce qui est bien, c'est que en inversant, en faisant de la parité, en faisant des obligations, on peut se projeter après. Même si peut-être pour certains hommes, ça a été vécu de manière inégalitaire à un moment donné dans leur parcours. Et maintenant, sur le plus long terme, c'est comme ça qu'il faut le voir. Nous, on peut se projeter et on peut aller vers ces postes, faire des formations, se former à faire des études pour avoir des postes encadrants, oser parce qu'on a vu d'autres le faire.
Et aussi expliquer, en fait, parce que on voit une victimisation de la part de certains hommes qui s'estiment lésés maintenant. En fait, ça s'appelle juste expérimenter l'inégalité. Et plutôt que d'avoir l'impression de subir et d'être discriminé, ce serait important de prendre le temps de parler justement de ce que c'est que subir une inégalité et comment on corrige ça pour tout le monde, quoi.
Totalement. Pardon. enfin, on observe quand même quelque chose qui revient tout le temps, que ce soit secteur culturel, secteur numérique, secteur politique, le manque de représentation, et donc du coup qui crée chez les femmes partout, de tout milieu, une incapacité à se projeter dans une fonction, et même plus loin que ça, une incapacité à avoir ce raisonnement, parce que tout simplement c'est pas quelque chose qui est posé comme question. Est-ce que du coup vous l'avez vécu ça ?
Non, moi je ne l'ai pas vécu, mais ce que je veux dire, Geoffrey, c'est qu'il faut se mettre à l'échelle de l'histoire. Les femmes, elles travaillent vraiment depuis les années 60-70. Elles travaillent avec un salaire, je veux dire, parce qu'elles ont toujours travaillé, mais elles travaillent dans le monde du travail avec un salaire depuis les années 60-70. On ne peut pas... en fait, tout ça, ça va être un... Il faut être patient. Il peut y avoir des lois. La société, elle n'est pas encore super prête. On a quand même fait pas mal d'avancées, mais voilà, à l'échelle de l'histoire... Rappelons-nous qu'on ne pouvait pas ouvrir un compte en banque, qu'on ne pouvait pas travailler sans autorisation du mari jusqu'en 64, je crois, quelque chose comme ça à vérifier. On a vraiment occupé le champ du travail dans les 70. Aujourd'hui, on est à 50-50 femmes-hommes dans le monde du travail. Voilà, tout ça est encore récent. Et donc, c'est des batailles encore à mener. C'est pour ça qu'il y a encore des délégués et des élus à l'égalité femmes-hommes. Parce que, voilà, c'est pas, il faut que ça devienne réel, c'est ce que je disais au début. Mais c'est quand même récent à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas partir de vue quand même.
Et moi, mon interprétation, hein, on ne peut pas adhérer, mais c'est que la société a drastiquement changé aussi très très rapidement depuis que les femmes maîtrisent leur contraception dans les sociétés où elles le peuvent. Et en fait, maîtriser sa maternité, maîtriser son corps, maîtriser les temps auxquels on pense pouvoir avoir le temps de se dédier à ce projet de vie, ça change tout. Ça change les dynamiques femmes-hommes, ça change les dynamiques même pour les personnes voilà, qui sont pas du tout dans des codes hétéronormés, mais ça vient mettre un bazar incroyable. Et je dis incroyable parce que je le trouve fabuleux, ce bazar. Mais on est encore dans l'ajustement. Là, je parlais d'alignement tout à l'heure. On a beaucoup de mal à être aligné sur ce sujet. Parce que je pense que quelque part, le fait que les femmes maintenant travaillent, qu'elles aient un salaire, qu'elles puissent partir, si elles ne sont pas heureuses, qu'elles soient autonomes financièrement, qu'elles puissent maîtriser leur corps, en fait, c'est à peu près tous les objets de domination qui s'écroulent les uns après les autres. Et aujourd'hui... Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a des hommes qui le vivent mal, parce que dans les codes dans lesquels ils ont été élevés, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des hommes qui se sentent inutiles aujourd'hui parce qu'ils ont perdu peut-être cette fonction qui était la leur de protéger, de subvenir à des besoins, même si c'est inconscient, même chez les jeunes. Hein. Donc, il y a vraiment ce travail à faire ensemble. Vous parliez tout à l'heure d'identification. C'est pour ça que à la ville de Tours, là, on a politique de féminisation de l'espace public, justement, pour qu'il y ait plus de femmes dans l'espace public, pour qu'on voit plus de noms de femmes locales, nationales, internationales, artistes, scientifiques, résistantes, femmes de lettres, voilà, dans toutes les fonctions qu'elles ont toujours occupées, mais qu'on a invisibilisées, qu'on a oubliées volontairement, qu'on a écartées de l'histoire avec un grand H. Donc, c'est vraiment les remettre à une place qu'elles ont toujours eue. Mais aussi pour que les garçons et les filles, aujourd'hui, puissent se dire, tiens, il y a des femmes qui ont fait ça, mais ça veut dire que moi, je suis un garçon, je peux me dire qu'une femme a fait ces choses. Et moi, je suis une fille, je peux me dire que peut-être qu'un jour, moi, je pourrais le faire aussi. Et ça, c'est des petits pas, mais il faut beaucoup de petits pas. C'est comme les gouttes d'eau, hein, c'est comme les graines. Moi, je prends souvent l'exemple des graines. Il faut planter des graines. Après, elles prennent pas, elles prennent demain, elles prennent dans 10 ans, mais on les plante, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que c'est ça aussi notre mission, quoi. C'est de planter des graines, c'est de proposer aux gens de chausser les lunettes du genre pour qu'ils comprennent ces problématiques. Et parce que quand on prend les choses, on est beaucoup moins austère. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais voilà, de développer ce dialogue, aussi cette empathie, cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Et on en a vraiment besoin parce que je pense qu'il y a beaucoup de souffrance par rapport à ce combat, de part et d'autre, alors qu'on pourrait au contraire le porter ensemble.
Pour tout ce que ça apporte aux femmes, mais aussi aux hommes.
C'est ça.
Merci. Marie, peut-être des questions ?
Oui, alors je demande à nos invités, à votre sens, est-ce qu'il faudrait plus de Christiane Taubira, donc voilà, qui est issue d'une famille de 11 enfants élevés par une mère seule, ou plus de Rachida Dati, donc qui vient aussi d'un milieu modeste et qui a la double nationalité franco-marocaine. Est-ce qu'il faudrait plus de personnes comme cela, disons, dans le monde politique français?
Alors après, moi je pense que voilà, des femmes à des hautes fonctions sont toujours des modèles. En plus, vous avez pris deux exemples assez intersectionnels, donc je pense que c'est passionnant. Après, moi, pour un angle plus politique, je suis quand même désolée, même si on pense que c'est des sujets transpartisans, je pense quand même qu'on porte plus facilement l'égalité à gauche. Ça, je me permets de le dire, parce que finalement, ça recoupe beaucoup d'autres valeurs. Et même si on peut être tout à fait un rôle modèle en étant une femme de droite, heureusement, parce que le but, c'est de pouvoir s'identifier. Ça ne veut pas dire qu'être une femme, c'est forcément un modèle. Donc là, vous avez pris deux modèles que je trouve tout à fait intéressants. Voilà. On en connaît d'autres dans d'autres milieux politiques. En fait, pour moi, quand une femme s'approprie les codes de la masculinité et de la domination, ce n'est pas forcément un rôle modèle féministe ni auquel s'identifier est une bonne idée.
Moi, je n'ai pas d'autres questions.
On va faire une pause musicale alors.
Et on va faire une petite pause musicale. Marie, qu'est-ce qu'on va mettre ?
Ah bah je choisis la pause musicale et voilà, on va choisir une femme avec une voix exceptionnelle parce que quand même que les gens mesurent les efforts qu'il faut parfois faire pour se faire entendre. On va écouter Imma Sumac et on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour dans La Méridienne. À tout de suite.
Mambo, mambo, que te meridor, rico, 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 chú, burle tú. Ay, mambo, mambo, que te meridor, rico, 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 chú, burle tú. A ti solito yo te amaré, a ti solito yo te querré. A ti solito yo te amaré, a ti solito yo te querré. ¡Mamá!
Radio Campus Tour.
Alors, juste Mélissa, avant, est-ce que c'est mieux que je parle comme ça parce que je suis proche de mon micro ou alors je parle comme ça ?
Radio Campus Tour.
Si je parle comme ça, est-ce que le son est mieux ? Le son est moins bien ? Ou alors je peux aussi parler comme ça ?
Ça n'a guère d'incidence.
99.5 FM.
D'accord, bon, je vais parler comme ça. Alors donc la question c'est le...
Oui.
Pardon, je te laisse répéter la question.
RadioCampusTour.com.
Bonjour, ou plutôt rebonjour. On est toujours avec Élise Pereira-Nounès et Marie Roussel-Staniki. Et on va aller vers le dernier axe de cette émission, les actions concrètes à mener. Vous qui connaissez bien le dossier de l'égalité, est-ce que si vous aviez beaucoup de pouvoir d'un seul coup, que quelqu'un vous obtenait ce grand pouvoir, un pouvoir presque absolu sur notre société, qu'est-ce que vous feriez en premier ? Quelle action vous meneriez pour que l'égalité femmes-hommes change ?
Première action, tout à fait facile à faire, c'est l'éducation, la prévention. Parce qu'en fait, sur la prise en charge, on est quand même de moins en moins mauvais. Il y a eu beaucoup de choses de faites, mais il y a quand même encore un parent pauvre. Donc ça serait obligatoire, de la maternelle à la terminale, des cours éducation, vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc là, il y a un nouveau programme qui vient de sortir, donc j'espère que ça va vraiment se faire, parce que sinon, il n'y a que 15% des élèves qui ont leurs 3 séances annuelles obligatoires depuis la loi de 2001, normalement. Donc ça serait... Je mettrais des profs dédiés à ça, en fait. Ça serait ma première action, pour vraiment éviter les violences de genre ensuite à venir. Et puis, j'aurais beaucoup plus de moyens aux associations, à la police et à la justice, qui toutes, et pour le voir de l'intérieur, essayent de faire leur maximum. Mais c'est hyper dur de devenir, comment dire, maltraitant parce qu'on n'a pas assez de moyens, que ce soit les institutions ou les associations. Voilà ce que je ferai en premier.
Et je rajouterai la santé aussi parce que ce soit vraiment de la considération de la vie in utero jusqu'à la fin de vie des femmes dans nos EHPAD, etc. Je pense que vraiment la question de la dignité est essentielle et quand même, les femmes, la vie d'une femme, elle est complexe parce qu'elle part petite avec des stéréotypes qui nourrissent son environnement. Ensuite, elle est perdue à l'adolescence avec les questions de puberté. Enfin, moi, je pense que ce qui caractérise beaucoup, encore une fois, c'est mon interprétation, mais les inégalités et les vitesses différentes des garçons et des filles, c'est qu'une fille, en fait, même avant qu'elle soit réglée, on va dire, un jour, tu auras tes règles, et le jour où elle a ses règles, ah bah attention, aujourd'hui, tu vas potentiellement un jour devenir une femme, une mère, donc ta sexualité, elle est aussi conditionnée par rapport à cette maternité potentielle, donc fais attention à toi, puis fais aussi attention au fait que tu vas être un objet sexuel, donc... le regard des hommes va changer sur toi, donc il faut faire attention à ce que tu portes. Et après, quand tu vas être en âge de sortir, attention à ce que tu portes, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu bois, attention à qui tu fréquentes. Vraiment, et ensuite, il y a la question de se projeter ou pas dans une maternité, donc avec tout ce qui va avec les commentaires sur le fait de se projeter trop tôt, trop tard, ou de ne pas se projeter du tout dans la maternité.
Donc ton grand pouvoir, Élise, ça serait que les hommes puissent être enceints aussi.
Non, mais puis en plus, derrière le poids de la non-maternité, enfin la fin de la potentiel de maternité, donc la ménopause qui, encore une fois, met les femmes dans un autre placard, qui les invisibilise encore différemment, à la retraite. Puis on sait aussi que les femmes sont celles qui vivent le plus longtemps, donc celles qui vont peut-être encore plus mal vivre leur fin de vie si elles sont seules, si elles n'ont pas d'argent, si elles sont démunies. Donc je trouve que le parcours d'une femme, en fait, de A à Z dans sa vie, est souvent semé d'embûches. Et je ne parle même pas des douleurs physiques, je ne parle même pas de la prise en charge médicale de tout le parcours. Donc c'est vraiment aussi mettre le paquet là-dessus sur la santé pour que les femmes elles puissent, en fait, vivre une vie assez apaisée aussi et pas systématiquement régie par leur biologie et au-delà de la biologie, tout ce qu'on va calquer au niveau sociétal dessus, quoi.
Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez une phrase, un message à adresser aux citoyennes ou jeunes citoyennes qui nous écoutent en ces temps ?
Prenez votre place. Et c'est-à-dire que si vous en avez envie, allez-y. Et si vous n'êtes pas sûr parce que vous ne vous sentez peut-être pas capable, regardez autour de vous et vous allez voir qu'il y a plein de femmes en fait, qui font plein de choses. Ce n'est pas forcément par rapport à son genre, par rapport à son origine sociale, à son origine ethnique, à son orientation sexuelle, à son identité de genre, qu'on doit être empêché. Au contraire, je pense qu'il faut oser. Alors, c'est dur de dire ça parce que... parce qu'on n'a pas tout le temps envie ou besoin d'être forte. Parfois, on a le droit d'être faible, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'en avoir ras-le-bol, on a le droit de vouloir se mettre dans son cocon avec son bouquin et tout coupé. Mais en tout cas, on a la chance d'être en France. Ça, je le dis parce qu'on a la chance d'être en France dans un contexte compliqué, mais dans lequel on trouvera de l'information, on trouvera des gens autour de soi, on trouvera des relais. Donc vraiment, si vous avez envie, si vous pouvez, si c'est votre souhait, et bien, grattez et allez-y parce qu'on a besoin de vous. Garçons ou filles d'ailleurs, hein, mais vraiment les filles, allez-y. Vous avez des choses à dire, on veut vous entendre, quoi.
J'aurais à peu près dit la même chose. Et puis redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on fait des choix dans la vie et puis après on peut rebifurquer, on peut faire des erreurs, c'est pas grave. Et des erreurs personnelles, des erreurs professionnelles. On a toute la vie pour les corriger et pour tout doucement aller vers ce qu'on a envie et ce qu'on est vraiment.
Et parfois, les échecs sont les plus belles réussites. Enfin, moi, je pense que j'en suis un exemple très important, hein, parce que j'ai fait un doctorat, j'ai rendu une thèse que je n'ai pas pu soutenir. Et aujourd'hui, je suis adjointe à la ville de Tours en train de porter les sujets que je veux. Donc franchement, tout est possible.
Tout est possible. Mélissa, une dernière question.
Alors oui, allez, je ne résiste pas à une dernière petite question à nos invités. Réponds qui veut et qui peut, hein, parce qu'on rappelle qu'il y a aussi le devoir de réserve pour l'une de nos deux invités. Alors, puisque vous le disiez, nous sommes en France, donc je rappelle à nos auditeurs et auditrices que hier, Éric Lombard, ministre de l'Économie, faisait la promotion d'un fonds d'investissement de la BPI dédié à la défense. Donc il invitait les Françaises et les Français à investir au minimum 500 euros là-dedans. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous allez abonder ce fonds d'investissement et est-ce qu'on peut craindre là aussi un triste backlash, c'est-à-dire que puisque nous entrons dans une économie de guerre, est-ce qu'on risque d'entendre que les questions féministes, ça devient mineur et que c'est quand même vraiment plus le moment de nous embêter avec tout ça ?
Non, mais c'est toujours le sujet. Enfin, là, c'est la guerre, le prétexte, mais il y a toujours un bon prétexte. Il y a toujours une priorité qui... pourrait permettre de reléguer l'égalité à un sujet secondaire, minoritaire.
On le voit dans le monde, hein, on voit aux États-Unis, on le voit partout. En Pologne, on l'a vu en Pologne.
Donc en fait, ce qui serait vraiment incroyable, c'est que pour une fois, on n'éclipse pas l'égalité au bénéfice d'eux. Et que on a, si on veut faire un budget défense, qu'on intègre la question d'égalité à ce budget défense. Voilà. Donc je vais laisser les ingénieurs techniciens et autres qui travaillent sur ces sujets réfléchir à l'intégration de l'égalité, cette peut-être nouvelle mesure ou autre, mais ça reste vraiment vraiment j'ai envie, ce serait bien que ce soit pas tristement banal comme d'habitude de nous dire bon bah maintenant voilà votre sujet est secondaire, il intéresse personne, on a d'autres priorités, vous comprenez, qu'on se défende, mais défendre qui ? Parce que je tiens à préciser ici qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, climatique, une guerre, des conflits dans le monde, ce sont toujours les femmes et les enfants les premières victimes, et les plus nombreuses. Donc ce serait bien qu'on arrive à travailler là-dessus et à corriger le tir, parce que ça devient tout simplement insupportable, en fait.
Voilà. Et juste pour conclure, parce que je ne peux pas réagir à cette phrase, mais les femmes ne sont pas fragiles, ce sont leurs droits qui sont fragiles.
Bravo.
Bah merci beaucoup Élise Pérez-Nunes et Marie Roussel Stanicki d'être passées sur le plateau de Radio Campus.
Merci à vous.
Merci.
J'aimerais vous rappeler que c'est une série d'interviews et d'émissions qui sont disponibles en podcast et dont la dernière émission se passera cet après-midi de 16h à 17h dans Sortez. Vous pouvez donc retrouver les émissions en podcast sur le site de Radio Campus. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se dit peut-être à la prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt.
Et alors, quand même, pour aller chez nos auditeurs, qui sont les deux invités de l'émission Sortée ?
La prochaine émission Sortée, qui va se passer aujourd'hui, sera Lindsay George et Christine Inchospé, qui sont à l'Université de Tours et qui se chargent d'émissions d'égalité et d'entrepreneuriat au féminin.
Et merci à la compagnie Mobius, avec laquelle nous faisons ces émissions. Comme tu le disais, à retrouver sur notre site radiocampustour.com. Et on va se quitter. Allez, une dernière petite musique. On va écouter Cathy Berberian, encore une voix incroyable. Voilà, vive les femmes.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Après, il y a énormément de choses encore. Mais bon, je ne sais pas, Vanessa, si vous voulez nous laisser, on travaille plutôt par thème. Ou...
Radiocampustour.com.
Alors, je ne sais pas qui est Vanessa, mais qu'elle se manifeste.
Mélissa, pardon.
Radiocampustour.com.
He's got a ticket to ride, but he don't care.